Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce jour de rentrée scolaire, ce sont quelque 12 millions d'élèves qui reprennent le chemin des écoles, des collèges, des lycées, accueillis par plus de 800 000 enseignants. Et Franck Ferrand nous propose sur Europe 1 de comparer cette rentrée avec les rentrées d'il y a 100 ans. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a 100 ans, la rentrée se faisait un mois plus tard en fait, début octobre. En effet, à l'époque, vous savez que la société française était rurale aux deux tiers et les familles avaient besoin des enfants l'été pour les travaux des champs.
Est-ce que je peux vous demander à quand remonte la création des écoles en France ?
Alors, pour ce qu'on appelait les petites écoles, à plus d'un millénaire. Mais attention, il faut attendre 1833 pour que la loi oblige les villages à instituer chacun une école. Et pour la plupart, on parle là d'écoles de garçons, évidemment. Les écoles de filles viendront un petit peu plus tard.
Et concernant les écoles religieuses ?
Oui, c'est ça. La plupart de ces écoles sont effectivement religieuses. L'enseignement laïque, obligatoire et gratuit, c'est, vous le savez, l'apport de Jules Ferry.
Alors vous qui nous écoutez, si vous avez des questions à poser à Franck Ferrand et à son invité, vous pouvez le faire dès à présent sur le site internet d'Europe 1.
Mon invité, un invité de marque aujourd'hui puisqu'il s'agit du grand historien Alain Corbin. Avant de le recevoir, nous allons donc invoquer le temps d'une émission, les capes et les bérets, les blouses, le tableau noir et les bâtons de craie, les bons points, les bonnets d'âne. Tout ça sur fond de feuilles mortes et de pluies automnales.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ah, c'est tout un univers. Je parlais à l'instant de blues et de porte-plume. Il faudrait ajouter les pupitres avec le trou de l'encrier, les cahiers à lignes pour la belle écriture ronde avec pleins et déliés, s'il vous plaît. Les devises de moralité au tableau. On y revient petit à petit à tout ça, plus ou moins. Le balancier est allé tellement loin dans un sens qu'il a tendance évidemment à revenir. Et puis les bons points, les prix d'honneur pour les bons élèves, le coin et le poil à long tuyau pour les moins bons. Tout ça créant une atmosphère peut-être un peu tendue, d'aucuns diraient stressante, mais en même temps rassurante dans les relents de colle blanche. Je vous le disais, Julia, l'école n'est laïque, gratuite et surtout obligatoire en France que depuis les années 1880. C'est l'héritage de Jules Ferry. Mais je tiens à redire, avant de vous parler de ce grand homme, de ce fondateur, je tiens à redire qu'il y a eu bien des écoles en France avant lui. Sous l'Ancien Régime, les petites écoles, comme on les appelait, étaient essentiellement tenues par la Compagnie de Jésus, vous savez, au moins jusqu'à l'expulsion des jésuites par Louis XV en 1764. Plus tard à la Révolution, un certain nombre d'enragés lancent l'idée de retirer l'enseignement scolaire à l'Église. On veut supprimer la dimension religieuse de l'enseignement. Le maître d'école devient à ce moment-là l'instituteur. Et sous le directoire, la loi d'Aunou, du 3 Brumaire en 4, maintient la liberté de l'enseignement, mais tout en confiant à l'État le soin d'organiser un service d'éducation publique. Comme souvent, je suis tellement habitué à le dire que ça devient presque étonnant, c'est Napoléon qui va réellement créer l'école, en tout cas le corps enseignant en tant que tel. Et plus tard, sous la monarchie de Juillet, le grand Guizot organise une véritable école d'État avec des appointements pour les instituteurs. On est là en 1833. Il faudra attendre 1867 pour parler des institutrices. Une première qui fait scandale, vous savez, en 1861, la première jeune fille, elle s'appelait Julie Dautier, obtient son baccalauréat. 1861, c'est un véritable événement à l'époque. Cette école, c'est essentiellement encore une école catholique, bien entendu. N'oublions pas le comte de Falou également, qui sous la Deuxième République va renforcer la fonction d'instituteur. C'est Falou notamment, entre autres décisions, qui va ordonner que les instituteurs n'exercent pas d'autres professions que celle d'enseigner aux enfants. Là-dessus arrive le désastre de 1870, la chute du Second Empire. Et quel est l'état des lieux ? Eh bien, vous avez, à l'issue de ce cataclysme, vous avez une école qui reste quand même essentiellement, enfin pour l'immense majorité des écoles, payantes, facultatives, assez mal équipées, fortement empreintes de religiosité et sous la tutelle de municipalités qui, disons-le, s'en occupent plus ou moins. Le chantier est immense, il y a beaucoup à faire. Et l'homme de la situation, ce sera bien entendu Jules Ferry. Dès 1870, à l'époque il est encore maire de Paris, le Paris assiégé, il déclare à la salle Molière « Je me suis fait un serment ». Entre toutes les nécessités du temps, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. C'est le problème de l'éducation du peuple. C'est un personnage extraordinaire, hein, ce Jules Ferry. Vous voyez à quoi il ressemble avec ses énormes favoris, sa tête toujours un peu triste comme ça, son air de chien battu. C'est un grand bourgeois assez peu communicatif. Alors, j'entre pas dans les aléas d'une très longue carrière. Il a été plusieurs fois ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, plusieurs fois président du Conseil. À chaque fois, il avance, hein, il fait un pas supplémentaire en faveur de l'école. Il faut préciser qu'il est efficacement secondé dans ce sens par le physiologiste Paul Bert, qui lui aussi très engagé dans ce domaine. Paul Bert est un proche de Gambetta. En 1879, la Troisième République à peine installée, on crée les écoles normales départementales dont le but est de former une armée d'instituteurs. Ces instituteurs, ce seront les fameux hussards noirs de la République dont parle Charles Péguy. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, dit-il. Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit de Franck Ferrand qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 aux grandes lois scolaires de Jules Ferry.
Alors ces grandes lois, elles interviennent en 1881-82. Le 16 juin 1881, c'est la gratuité. Donc là, on n'a plus l'excuse de manque de ressources. Hein, les enfants doivent aller à l'école. Et le 28 mars 1882, c'est l'obligation et la laïcité. Donc on a commencé par rendre l'école gratuite et ensuite on l'a rendue dès l'année suivante obligatoire et laïque. Alors ça crée évidemment ça une première obligation toute évidente pour l'État, c'est de multiplier les édifices scolaires. Hein. On va voir la France littéralement se hérisser de ses écoles, de ses palais pour les écoliers, comme disait Jean Sicard. Alors je ne reviens pas aujourd'hui sur la vie quotidienne des élèves. Vous savez que, je vous l'ai dit, pour les deux tiers, ce sont encore de petits paysans. Souvent il doit faire 2-3 km à pied tous les matins après avoir fait la corvette bois hein, jusqu'à l'école. On prend les chemins buissonniers, on emporte le casse-croûte bien entendu. Enfin bon, il y a toute une mythologie de l'école. Vous savez ça. J'allais dire, monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon.
Au lycée Papillon, on n'est pas que des imbéciles, Georgius sur Europe 1.
C'était Georgius, j'aime bien moi ces chansonniers d'autrefois qui nous mettent complètement dans l'ambiance. Alors, vous avez bien compris que la nouvelle école n'est plus une école religieuse. La seule vraie religion qui vaille aux yeux de Jules Ferry, c'est celle de la morale industrielle qui va tellement imprégner toute cette troisième république naissante. On veut forger d'honnêtes travailleurs, des citoyens responsables, fiables. C'est en tout cas ce que la République s'est fixé pour objectif premier. On peut dire que Jules Ferry s'investit personnellement dans cette affaire. Voici un extrait de la lettre qu'il adresse aux instituteurs le 17 novembre 1883. « Des diverses obligations qu'il vous impose, écrit Jules Ferry, celle assurément qui vous tient le plus à cœur, celle qui vous apporte le plus lourd surcroît de travail et de soucis, c'est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l'éducation morale et l'instruction civique. Vous me saurez gré de répondre à vos préoccupations en essayant de bien fixer le caractère et l'objet de ce nouvel enseignement. Et pour y mieux réussir, vous me permettrez de me mettre un instant à votre place afin de vous montrer par des exemples empruntés au détail même de vos fonctions question, comment vous pourrez remplir à cet égard tout votre devoir et rien que votre devoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de là, Jules Ferry entre dans le détail de tout ce qu'il faut dire aux élèves. On peut dire donc que cette nouvelle armée des hussards noirs de la République n'arrive pas sans munitions sur le champ de bataille. Elle sait précisément, parce que le patron là-haut à Paris l'a dit, ce qu'il va falloir inculquer à ces nouvelles générations de petits Français tout instruits.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et sur Europe 1, Franck nous parle maintenant de la communale.
Eh oui, la communale avec sa figure tutélaire, celle du maître d'école, de l'instituteur, de l'instit. Alors, qui est-il cet instit? Mais on ne peut pas faire une... on peut pas généraliser les choses, mais très souvent, ce sont des gens d'origine modeste, des gens qui vivent leur métier comme un véritable sacerdoce, hein, passionnés par leur tâche. On les imagine, ces instituteurs, dans leur blouse sanglée, avec cette passion qu'ils ont pour le savoir, pour la science. Ce sont littéralement des ouvreurs d'esprit. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons en rencontrer un, Monsieur Beaumort, qui enseignait dans le Limousin à la fin du 19e siècle. Disons que ces instituteurs sont toujours des patriotes, très attachés au régime, et ils vont d'ailleurs former ce qu'on appellera les bataillons scolaires. Il ne faut pas oublier qu'on est à cette époque où on a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'issue de la défaite de 1870, et que même si l'on n'en parle jamais, on y pense toujours, hein, n'est-ce pas? C'est cette recherche de la revanche. Le grand manuel de lecture de l'époque, c'est Le Tour de la France par deux enfants, signé d'un G. Bruno, qui se révèle être le pseudonyme de Madame Feuillet en réalité. Sachez qu'entre 1877 et 1914, ce véritable manuel patriotique a connu 400 éditions. Il a été tiré à plus de 6 millions d'exemplaires. On a l'habitude à l'époque de dire que les maîtres d'école prussiens ont largement contribué à la victoire allemande de 1870. Eh bien, on peut dire que les instituts français entendent bien contribuer à celle de la France, à celle que la France prépare. Et c'est ce qui arrivera bel et bien en 1918. Ils auront eux-mêmes contribué du reste à cette victoire à titre personnel, puisque sur 38 000 enseignants combattants, près de 8 500 trouveront la mort sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Ce qui fait qu'après la Première Guerre mondiale, le discours d'une grande partie des instituts va évoluer vers une forme de pacifisme et même parfois de pacifisme très militant. L'autre grande question qui agite évidemment cette école de la Troisième République, cette école du tournant du XXe siècle, c'est celle de l'anticléricalisme. Après 1900, les radicaux au pouvoir veulent séparer l'Église de l'État. Vous savez que ce sera la célèbre loi de décembre 1905. L'homme de la situation, là, ce sera le brave radical originaire du Tarn, ancien séminariste d'ailleurs, avec sa barbiche blanche, hein, le petit père Combes, Émile Combes. On ferme, en ce tout début du XXe siècle, on ferme arbitrairement 12 000 écoles congréganistes, ce qui va laisser 1 500 000 enfants sur le pavé. Vous voyez un peu le défi incroyable que ça a pu représenter pour l'école. Et puis, enfin, autre aspect fondamental, l'école de l'époque est un facteur assez inédit du reste de mobilité sociale. Pour les meilleurs élèves, elle est un véritable moyen de s'élever dans la hiérarchie sociale. Alors, pour un petit nombre, évidemment, ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, qui voudrait remplacer les statuts liés à la naissance ou à l'argent. Il faut dire que pour l'immense majorité des élèves, cette école, elle constitue pour autant non pas un moyen, mais bien une fin en soi. Elle sera validée, vous savez, à la fin du cursus scolaire par le fameux certificat d'études, le certif que certains appellent le sanctificat d'études.
extrait sur Europe 1 de la symphonie fantastique de Berlioz, Franck.
Un mot quand même de ce certificat d'études, parce que même si aujourd'hui, comme dirait La Fontaine, loin d'épuiser la matière, je n'en conserve que la fleur, le certificat d'études, c'est fondamental, c'est véritablement la peau d'âne, c'est le diplôme de tout bon élève, c'est la sanction d'un bon parcours scolaire. Il a été voulu par Victor Duruy dès 1866, dès le Second Empire, ce certificat d'études, mais il n'est imposé par Jules Ferry qu'en 1882. On en décerne déjà 40 000 par an au moment où Jules Ferry généralise ce certificat d'études. Le but est de sanctionner l'acquisition de tout ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, selon l'expression de l'époque. Alors, on s'en est pas mal moqué jadis de ce certif, mais le fait est que dans le dernier, on va dire pendant les 50 ans, pendant le demi-siècle qui va des années 1890 aux années 1940, cette école et le diplôme qui la sanctionne font monter incontestablement le niveau de la population en général, mais aussi des savants français, des ingénieurs. Cette école va jouer un rôle très important pour amortir les effets du fameux exode rural. Elle va aussi, disons-le, créer un certain nombre de blocages. On pense évidemment à ce qui se passera beaucoup plus tard dans les années 60 et avec mai 68. Aujourd'hui, on essaie de revenir à ce que cette école avait de mieux. Je dis bien on essaie, à mon avis il y a beaucoup de travail. Mais on s'inspire d'une certaine philosophie, cette philosophie que résumait Jaurès. Je vous lis une lettre de Jaurès aux instituteurs. « Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne », écrivait le grand leader de la gauche de l'époque. « Il ne faut pas qu'il récite le soir ce qu'il a appris le matin. Il faut par exemple qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain qui, trompé par les yeux, a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de l'espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils. Alors et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire, personnelle, lorsque par la méditation, l'enseignant sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, alors il communiquera sans peine aux enfants à la première occasion la lumière et l'émotion de son esprit. » Pendant l'hiver 1895-1896, M. Beaumort, qui était instituteur à Morterolles dans le Limousin, a organisé des cours du soir pour les adultes du village. 10 conférences qui ont réuni à l'époque, on est à un moment où la veillée commençait à fléchir, qui ont réuni plus de 600 villageois des deux sexes. Ces cours du soir de la belle époque, l'historien Alain Corbin les a patiemment étudiés, racontés dans un magnifique petit livre qui s'intitule « Les conférences de Morterolles ». Il est avec nous dans ce studio pour nous en parler.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Euro 2012, il est temps pour nos Bleus de repartir à la conquête du vieux continent.
Et c'est avec Europe 1.
Après l'Albanie, l'aventure continue.
Demain, la France s'envole pour la Roumanie.
Alors dès 20h, retrouvez Jean-Charles Banoun, toute la team d'Europe 1 Sport et nos consultants Guy Roux et Robert Pires.
Roumanie-France, c'est demain dès 20h dans Europe 1 Sport.
Patrick de Montalivet, rédacteur en chef de Maisons et Travaux.
Deux dossiers complets dans Maisons et Travaux. Un, les extensions, les bons plans et les bons prix pour s'agrandir en donnant encore plus de personnalité à sa maison. Deux, les cuisines Inspiration Campagne, ou comment associer confort ultra moderne et charme d'une belle cuisine comme autrefois. C'est tout l'esprit Maisons et Travaux.
Ce mercredi, c'est la foire au vin chez Lidl. 63 vins blancs, rouges ou rosés, dont 33 vins médaillés, méticuleusement dégustés et sélectionnés pour vous. À des prix petits, petits, petits.
Waouh, c'est une foire au vin à couper le souffle chez Lidl.
Eh oui, c'est chez Lidl, ce mercredi 7 septembre. Ne manquez pas le rendez-vous.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Pas facile de trouver du travail quand on est senior. Chez McDonald's, on les aime les seniors. Ils peuvent y trouver des CDI et on leur propose la plupart du temps d'aménager leurs horaires pour qu'ils puissent gagner de l'argent tout en s'occupant de leurs enfants ou petits-enfants. En plus, avec 1200 restaurants en France, il y en a forcément un pas loin de chez eux.
McDonald's recrute. Déposez votre CV en restaurant ou sur mcdonalds.fr.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, avec votre invité, l'historien Alain Corbin.
Alain Corbin, auteur des conférences de Morterolles qui ont donc eu lieu pendant l'hiver 1895-96, sous-titré « À l'écoute, d'un monde disparu ». Ce qui est très passionnant dans cet ouvrage, Alain Corbin, c'est que, comme d'habitude, à partir du sujet très, très concret, très précis que vous traitez, vous nous donnez à voir toute une époque et tout un ensemble de mentalités. En fait, c'est cette soif de savoir d'une population très reculée qui transparaît dans cet ouvrage.
Oui, parce que beaucoup d'historiens ont étudié l'école elle-même. Mais je me suis toujours demandé ce que les anciens élèves pouvaient continuer d'apprendre, en quelque sorte, après la sortie de l'école. Or, à la fin du 19e siècle, ils n'avaient pas de journaux dans les campagnes. À Morterolles, par exemple, les enquêtes postales le montrent bien. Évidemment, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision. La veillée, vous l'avez dit, commence à décliner. Mais alors, que se passait-il dans leur tête, voilà. Or, je pense que, grâce à M. Beaumort, l'instituteur de Morterolles, qui a fait ses 10 conférences, dont il nous a donné le texte, alors que nous savons combien d'hommes et de femmes, et ils étaient extrêmement nombreux, la moitié de la population pratiquement, avaient été venus écouter ce monsieur.
Vous avez l'audimat des conférences,
voilà,
si je puis dire.
Alors on a une possibilité d'imaginer la soif de savoir, les curiosités, le basculement de l'univers mental dont vous avez parlé.
Cette soif de savoir est peut-être liée au fait d'un grand déficit d'éléments. On n'a pas, bien entendu, de radio à l'époque, encore moins de télévision, bien entendu. Tout ça n'existe pas. Les journaux sont réservés à une certaine élite villageoise, en quelque sorte, même si certains journaux ont quand même un grand tirage à l'époque et deviennent populaires. Mais finalement, les sources de savoir sont très limitées, les canaux sont très étroits.
Sont très étroits et surtout ils se décomposent à ce moment-là. Parce que l'univers mental, aussi bien géographique, historique, etc., était fondé sur la littérature de colportage.
Et oui, bien
pour
sûr.
Beaucoup. Parce qu'à l'école, ils n'avaient pas appris grand-chose, les plus vieux.
Hein, la fameuse librairie bleue de Troyes, chère à Roger Chartier.
Voilà, alors avec des histoires de Till l'Espiègle, des contes de Madame d'Aulnoy ou de Perrault, Les Quatre Fils Aimons, qui était un grand best-seller, etc. Or, c'était lu à la veillée.
Ça, c'est autrefois.
Même
donc
par
on est
ceux,
avant la
oui, vers 1850,
ou
disons, même
tard,
par
oui.
ceux qui ne savaient pas lire. Et les vieux pouvaient raconter des histoires, pouvaient raconter des contes, ils avaient la parole. Et puis, vers la fin du siècle, la bicyclette fait que les jeunes s'en vont. Mais que vont-ils apprendre ?
Les jeunes s'en vont et les gens commencent à émigrer vers les villes aussi.
En
c'est
plus,
le tout début de l'exode rural. Okay. Vous avez employé plusieurs fois ce mot de veillée. Moi, j'en ai dit un mot aussi dans la première partie. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faut préciser ce que c'était que la veillée. Ça a été un élément très important de la culture pendant des siècles, en fait.
Bien sûr. C'est-à-dire que dans les villages,
dans les campagnes,
dans les hameaux,
oui.
on dirait aujourd'hui, mm-hmm. Les gens se réunissaient, surtout l'hiver, dans une des maisons, ça tournait. Hein. Les jeunes se rencontraient là, à la veillée, c'était d'ailleurs la source de...
Près de la cheminée, généralement, pas loin de là.
De rencontres oui. amoureuses, etc. les mariages se faisaient un peu à la veillée. Les vieilles, donc, racontaient des contes, et les vieux aux tout-petits-enfants. Et puis, les femmes et les hommes d'âge mûr, ils faisaient des petits travaux, le tricot, épluchaient les noix, etc.
On jouait, on chantait, éventuellement.
Voilà. Et ça s'est déglingué, si je puis dire.
Ça a duré vers la fin des années 1950, mais on voit la perte de la veillée, c'est aux alentours du passage du tournant du siècle.
Oui, mais elles sont modifiées. À partir du moment où les jeunes vont en vélo au café, les gens d'âge mûr se retrouvent tout seuls, et ça a été le moment, entre les deux guerres, du jeu de cartes. Ce n'est plus, on n'est plus les noix, si vous voulez, on n'énoise plus, mais on joue aux cartes.
Et puis, battons notre coupe, la radio va arriver par là-dessus, et dans les années 20, complètement balayée, on va dire, la veillée. Alors, il y a un personnage essentiel, ce monsieur Beaumort, dans le village de Morterolles, dans le Limousin dont vous nous parlez. Ce personnage essentiel, il est nimbé d'un très grand prestige. L'instituteur est un grand monsieur.
Oui, c'est tout à fait étonnant, c'est le hussard noir de la République, mais surtout, pour que la moitié de la population se dise « on va aller écouter ces conférences », ça montre bien que ce monsieur qui, à mon sens, d'après ce que j'ai vu dans les archives, oui. était un peu à la fois...
Vous nous dites qu'il était un peu prétentieux.
Beau parleur, un peu prétentieux. On l'imagine, cet instituteur de la Troisième République, avec un langage très châtié, mais peut-être... il s'écoutait parler, si vous voulez. Comment j'interprète. D'ailleurs, c'est ce que dit le curé, son adversaire, qui trouve que M. Beaumort est prétentieux.
Alors, ce M. Beaumort va ne faire, en donnant ses conférences, qu'obéir aux instructions et aux circulaires du ministère de l'Instruction publique de l'époque, qui demande aux instituteurs de faire ce qu'on appelle des cours du soir.
Pas tout à fait un cours du soir. Parce que les cours du soir, c'était technique. Souvent, c'était des cours de
mathématiques, oui, c'est ça.
Ou de rattrapage, pour apprendre à lire et écrire, ou alors de mathématiques, etc. Alors que lui, sont des conférences populaires. Ça a été prévu par Jules Ferry en 1882. Mais Jules Ferry n'était quand même pas très chaud parce qu'il avait peur que les instituteurs passent trop de temps à ça et qu'ils ne fassent pas bien leur travail.
Oui, c'est plus valorisant, évidemment.
Et puis d'autre part, il ne voulait pas trop les payer. Donc, mais néanmoins, Jules Ferry a organisé ces conférences populaires qui ont été très peu suivies, qui ont été suivies surtout dans les villes, dans les régions, mais pas trop dans les campagnes.
Alors, pendant cet hiver 95-96, qu'est-ce que M. Beaumort peut raconter à ses auditeurs au cours de ces fameuses conférences.
Alors, leur parle-t-il ? Quelque chose de très différent de ce qui avait pu être dit à la veillée. Il leur parle à la fois du présent, ça c'est très important, il les met dans le bain, et dans le bain d'événements de la planète, c'est-à-dire qu'il leur raconte la conquête de Madagascar 2 mois après la fin de cette conquête. Donc ils viennent vraiment écouter de l'actualité. Il leur raconte les combats dans ce qu'on appelle alors le Soudan, alors que ces combats ne sont absolument pas terminés. Le général Joffre vient de remporter une petite victoire au moment où M. Beaumort parle. Mais donc, ces gens sont absolument dans l'actualité. Et il leur apporte évidemment l'histoire vue au filtre de la Troisième République et de la République. Il leur raconte Valmy, il choisit de raconter Valmy et non pas Austerlitz, si vous voulez, parce que c'est la manifestation de la nation. Il leur raconte des choses de ce type, mais surtout...
J'imagine qu'il ne leur dit pas tout sur Valmy, mais enfin, c'est une très petite parenthèse que je m'empresse de fermer. Nous en parlerons, tiens, de ces jours. Ça me donne des idées.
En plus, il leur parle des principes de la République. Et il a choisi 3 principes. La patrie, le travail et l'union. Et il leur parle longuement de cette conférence. Et on m'a remis d'ailleurs depuis un cahier.
Alors oui, il faut vous dire que vous vous êtes rendu vous-même, évidemment, à Morterolles. Et vous avez donné, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de juin dernier, vous avez donné une conférence dans la salle même qui était la salle de M. Beaumort.
Oui, qui était un peu réaménagée, mais qui était la salle de M. Beaumort avec un effectif équivalent à celui de M. Beaumort.
Ça ressemble à quoi? Vous pouvez nous décrire en 2 mots?
En gros, c'est une grande salle en longueur, qui n'a rien de très particulier, mais qui a été modifiée. Hein. Et une vieille dame... enfin, une dame âgée, je ne sais pas si elle était si vieille, m'a apporté un carnet, un cahier de ses ancêtres qui était signé de M. Beaumort, parce que M. Beaumort signait les cahiers et il dictait des leçons et j'ai lu la leçon sur la patrie avec inquiétude pour savoir si je ne m'étais pas bien trompé. Non, M. Beaumort parle de la patrie et de la nécessité de se sacrifier pour la patrie, au besoin de mourir pour la patrie, de lutter pour la patrie. Il est plus... plus net encore que ce que j'avais pu imaginer.
Il y a quelque chose de presque du discours politique là, à ce moment-là.
Oui, et dans le domaine colonial aussi. Oui. Parce qu'il a parlé donc des colonies et donc il était là, il respectait les injonctions du lobby colonial formé par l'Union coloniale.
Alain Corbin, nous revenons dans un instant sur le contenu de ces conférences, sur ce qu'elles nous apprennent de la mentalité de l'époque, sur les conséquences qu'elles ont pu avoir également. Nous sommes dans une école qui est une école du soir, une école pour adultes, qui nous apprend aussi un certain nombre de choses sur ce qu'était l'école, tout simplement, de l'époque.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvenets, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnet d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin.
Maxime Le Forestier sur Europe 1 avec un extrait de La maîtresse d'école, qu'on trouve toujours belle hein, d'ailleurs.
Oui, La maîtresse d'école de Brassens. C'est Maxime Le Forestier, mais qui chante l'immense Brassens. Nous croulons littéralement sous les messages des auditeurs. Je suis ravi. Après tout, nous leur avons demandé d'écrire. Et en plus, c'est très intéressant tout ce qui arrive. Alors, plusieurs rectificatifs. Hein. On me dit, et c'est vrai, que j'ai parlé à plusieurs reprises d'école obligatoire. C'est faux, me dit-on. C'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école. Et d'ailleurs, Patricia nous précise que c'est malheureusement pour cela que tant d'enfants sont à l'écart du système scolaire. C'est un vaste débat. On devrait peut-être revoir la loi de 1882, nous dit-elle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été revue un certain nombre de fois. Mais sur ce point-là, après tout, il y a peut-être quelque chose à faire. En même temps, c'est très important que l'instruction soit obligatoire, que l'école le soit, c'est une autre histoire. Mais encore une fois, je ne veux pas entrer là-dedans. Donc plusieurs messages à ce propos. J'espère qu'au cours de cette émission consacrée à l'école d'autrefois, vous n'omettrez pas, nous demande Christian, de mentionner la brutalité dont beaucoup de ces hussards noirs faisaient preuve dans l'exercice de leur métier. Les châtiments corporels, pourtant interdits par les instructions officielles, étaient monnaie courante et ne sanctionnaient pas seulement l'indiscipline, loin de là. Oh, il ne faut pas remonter au 19e siècle pour avoir ce genre de souvenirs. Alain Corbin, vous me disiez que l'école que vous avez connue, vous, dans les années 1940, n'avait pas tellement changé par rapport à celle de 1900.
Non, c'était les mêmes plumiers, les mêmes encriers, etc. Non, effectivement, celle que vous avez décrite, elle était encore là.
Jusque vers le milieu, même la fin des années 60. Moi, je l'ai connue pour des raisons particulières. C'est que j'étais dans une école d'application qui était une sorte d'école laboratoire où nous avions encore ces méthodes qui étaient celles, justement, de l'école de la Troisième République. C'était assez spectaculaire, d'ailleurs. Je travaille en Suisse, nous dit Patrick. Il est intéressant de constater qu'à Zurich, ils attaquent leur troisième semaine d'école. Ben oui. Mais en Suisse, on est très discipliné et vertueux, n'est-ce pas? On le sait bien. Et puis Alex nous dit qu'il est navrant de constater que l'éducation civique a disparu. J'ai 33 ans et c'est une matière qui était au programme, dit-il, et qu'on aurait dû enseigner chaque année, mais qui était toujours laissée pour compte. Je crois qu'il est question, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, de remettre l'instruction civique au programme et d'actualité. Maintenant, entre les programmes et la réalité, il y a toujours bien sûr une petite différence. Il y a, et c'est ce que l'on constate lorsque l'on parcourt ces 10 conférences de Morterolles, hein, ces conférences données par cet instituteur limousin à la fin du 19e siècle, Alain Corbin, il y a une forte dimension morale dans tout ça.
Bien sûr, bien sûr.
Le but est un peu l'élévation des âmes et la formation des citoyens.
Comme il n'avait que 10 conférences, il n'a pas parlé de tout. C'est pourquoi il a choisi la patrie, l'union. Il aurait pu aussi choisir d'autres données, hein, l'hygiène, par exemple, oui. À l'époque. Mais c'était fondamental. Tout le cycle de ces conférences tourne autour de la volonté de moraliser et de préparer au sacrifice. Hein, parce que c'est malgré tout, vous y avez fait allusion, la patrie. Le sentiment de la défaite est encore proche, ça fait pourtant un quart de siècle. Et l'idée qu'il va falloir défendre la patrie, et la patrie c'est le sol, c'est la famille, ce sont les enfants. Voilà ce qu'on trouve dans ce type de discours.
Alors, vous bénéficiez, grâce au script, si je puis dire, des conférences, d'un matériau exceptionnel pour ce livre. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives? Est-ce que vous connaissez, vous, d'autres initiatives identiques dans la région ou dans la France de l'époque?
Ah oui, Mona Ozouf avait déjà, et Jacques Ozouf, trouvé les carnets d'un instituteur du Loir-et-Cher, si ma mémoire est bonne, qui avait décidé de faire ce type de conférence. Et un étudiant termine un travail qui va être publié sur la région parisienne. Hein. Ce qui est caractéristique en ce qui concerne la région parisienne, c'est que l'effectif par rapport à la population, le pourcentage, si vous voulez, par rapport à la population, est infime par rapport aux 40 ou 50% de Morterolles.
Oui, c'est-à-dire qu'on est à combien à peu près
Peut-être, je sais pas, parce qu'avec la ville, c'est...
Mais alors, ça tient à quoi? C'est qu'il y avait... Les habitants de Morterolles étaient particulièrement...
Je ne sais pas trop. C'est une région pas très alphabétisée, puisque le Limousin est en retard. La Haute-Vienne est 86e.
Il y a eu un effet de bouche à oreille.
Il y a eu sans doute le prestige à la fois de cet instituteur et de sa femme. Qui enseignait aux filles et qui était très très bonne aussi, puisqu'elle concurrençait victorieusement l'école congréganiste qui existait. Alors donc le couple devait être très très populaire.
Justement, vous nous dites que l'ennemi de l'instituteur, presque par tradition, c'était le curé, évidemment, local. Il y a eu, un peu plus tard, mais on est déjà dans les années 95-96, on est déjà dans les prémices de ce débat-là, il va y avoir la séparation de l'Église et l'État, avec cette espèce de cataclysme sur une grande partie de l'enseignement, 10 ans plus tard. Est-ce que l'Église n'a pas changé dans son rapport à l'enseignement? C'est un sujet, ça, que je connais bien, au XVIIe siècle, par exemple, l'Église a une véritable vocation d'enseignement et d'éducation. On a l'impression que cette vocation-là, elle s'est perdue au cours du XIXe siècle et qu'elle s'est un petit peu rigidifiée.
Il y a eu quand même, vous l'avez dit, des écoles congréganistes durant les deux tiers du siècle. Persécution, puisque c'est perçu par l'Église comme une persécution, affaibli son message, et peut-être, mais au XXe siècle, il y a encore beaucoup d'écoles. Ça dépend des régions, d'écoles congréganistes, chacun le sait.
Je vous propose un petit clin d'œil à notre ami Hugo Frey, qui, je le sais, est un fidèle de l'émission.
Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais.
Hugo Frey sur Europe 1. Adieu, monsieur le professeur.
Alain Corbin est donc l'auteur des conférences de Morterolles, hiver 1895-96, à l'écoute d'un monde disparu. Vous avez, à partir, vous me le précisiez à l'instant, c'est vrai, à partir des éléments que vous aviez, à partir des notes de monsieur...
Non, surtout le titre.
Et des titres.
De chacune. Oui, c'est ça.
Vous avez, été obligé de... Vous avez fait ce travail de résurrection, en quelque sorte.
Oui, parce qu'on connaît bien l'école, finalement. Il y a des archives, mais on ne possède rien concernant ce qui est après l'école. Et les historiens, bien, il y a un moment, ils sont obligés de parler du probable et donc de quitter le statut de la preuve très fort, quoi.
Alors Alain Corbin, ce très bel ouvrage est publié chez Flammarion, et au Seuil, vous sortez un ouvrage qui s'appelle « Les héros de l'histoire de France, expliqué à mon fils ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça aussi cette saison, puisqu'il est question en ce moment de la disparition des programmes de Jeanne d'Arc, de Louis XIV et de Napoléon. Ces héros de l'histoire de France, ils ont joué un rôle très important dans la formation de l'imaginaire collectif.
Oui, dans la formation de l'imaginaire collectif, mais le but de ce livre était de montrer surtout l'historicité des ressorts de l'admiration, c'est-à-dire qu'on admire à telle époque pour telle raison,
Pourquoi,
à telle autre époque pour telle autre raison, et aujourd'hui il y a un basculement complet des ressorts de l'admiration.
Nous allons y revenir dans une prochaine émission. Histoire de l'école de Pierre Giolito, c'est édité chez Imago. Et puis, dans la série de ce que j'étais en train de vous dire, on parle beaucoup en ce moment de cet alter manuel d'histoire que publient les éditions Perrin et qui est signé Dimitri Casali, qui est une sorte de coup de gueule contre la disparition d'un certain nombre d'éléments importants des programmes. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors je vous propose de sauter quelques classes aujourd'hui et de s'intéresser aux étudiants. Je ne crois pas trahir un secret, Franck, si je dis que vous êtes éloigné de chez vous pour venir étudier à Paris.
Ah oui, j'étais un exilé, oui, tout à fait, à 17 ans.
Avez-vous trouvé facilement une chambre
Non, ça a été très difficile et très pénible.
Eh bien ça l'est toujours aujourd'hui, on en parle, nos experts vous apporteront les solutions.
Merci beaucoup Elena, et nous nous retrouvons demain, Julia.
Avec plaisir sur Europe 1, où il est 14h. Merci à tous de votre confiance.